Bonjour Martin Carly.
Bonjour Marie-Hélène.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Les vacances approchent pour Martin. Là.
Oui, pas mal.
Un beau voyage, voilà. Des belles vacances.
Ouais.
Martin, il y a des chercheurs américains qui ont fait une découverte très, très intéressante,
ouais.
Qui pourrait avoir des percées, j'imagine, dans le domaine de la santé spectaculaire. On a réussi à créer des globules blancs artificiels en laboratoire.
Exactement, et on parle plus précisément de cellules T qui sont très importantes pour combattre des infections. Le rôle de ces cellules-là est bien simple. Lorsqu'un agent infectieux qui entre dans notre corps, eh bien, ce sont ces cellules-là qui sont dépêchées par le système immunitaire, par le réseau sanguin, pour pouvoir aller s'attaquer aux agents infectieux pour essayer de les détruire, donc se débarrasser des agents qui causent l'infection. Lorsqu'on veut utiliser ces cellules-là, si on veut les utiliser, par exemple, de façon naturelle, donc utiliser des cellules T naturelles, ben on a des problèmes avec ça, parce que si on extrait ces cellules-là du corps, ben survivent pas longtemps une fois extraites du corps. Donc, on peut pas vraiment stocker de ces cellules-là pour les utiliser quand on veut, par exemple, lors d'une transfusion sanguine. On peut pas faire ça avec ces cellules-là. Et en plus, ce sont des cellules qui sont délicates à manipuler à l'extérieur du système, donc de notre corps.
Oui.
Donc, c'est pour ça que des chercheurs se sont attaqués à la possibilité d'en créer de façon artificielle. Et ils ont réussi. Et ça, c'est franchement fantastique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de voir à quoi ça va servir? Ils ont manipulé à l'échelle microscopique des fluides. On parle d'huile minérale et de dérivés d'algues, de l'alginate, pour former des petites particules, très petites, qui avaient les mêmes caractéristiques physiques que les cellules qu'on cherche à imiter. Donc, elles sont élastiques, elles ont une taille semblable, elles sont flexibles, donc on est capable de s'attendre à une performance similaire. Ça, c'est la première chose. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que nos globules blancs, eux, pour se rendre au site d'infection, des fois, doivent faire un peu de la contorsion. Ils doivent être capables de se squeezer pour employer l'anglicisme,
okay, ouais, ouais,
dans des pores de très petite taille. Donc, des fois, ils doivent être capables de se déformer.
De se tordre.
Vraiment,
ouais,
pour atteindre juste seulement le quart de leur taille. Et à d'autres moments, ils doivent se gonfler pour atteindre une taille trois fois plus grande. Donc, ça prend des cellules très flexibles, très élastiques pour faire ça. Et ça, déjà, premier critère respecté, on a ça avec nos particules. Deuxième critère, fallait leur donner des fonctions biologiques intéressantes. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a recouvert l'extérieur de ces cellules artificielles-là avec des phospholipides, comme les membranes de toutes nos cellules à nous.
Qu'est-ce que c'est un phospholipide?
Phospholipide, c'est une molécule de gras qui contient du phosphore. Et c'est surtout le matériau de base de construction des membranes de toutes nos cellules. Donc, c'est ce qui entoure toutes nos cellules, essentiellement, des phospholipides. C'est un matériau, okay, particulier. Donc, on a réussi à recouvrir ces particules-là avec le même matériau qui forme une limite pour nos cellules à nous, de 1. Et on a réussi à inclure dans cette membrane artificielle-là des molécules qui pourront permettre d'interagir avec toute autre cellule de notre système immunitaire pour pouvoir fonctionner carrément dans notre corps. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et ça fonctionne. Les cellules obtenues sont presque identiques à nos cellules à nous.
Mais est-ce qu'on les a vues se battre?
Exactement. Donc là, ce qu'on voit de ces cellules-là, c'est qu'elles interagissent avec le système immunitaire de façon normale. Premièrement, par contact direct. Donc, elles sont carrément capables d'entrer en interaction avec d'autres cellules de notre système immunitaire, ce qui est important. Et deuxièmement, sont aussi capables d'échanger avec des signaux chimiques avec les autres cellules de notre système immunitaire. Donc, on a quelque chose de fonctionnel.
Il y a une connexion,
ici,
là.
Vraiment. Ouais. À quoi ça va servir, ça? Eh bien, ça pourrait servir, on va tout de suite penser à ceux qui sont immunosupprimés lorsqu'ils subissent des traitements de chimiothérapie. Ils ont un système immunitaire qui est à terre, carrément. Ils sont très vulnérables à toutes sortes d'agressions de l'extérieur. Mais imaginez, là, qu'on pourrait leur donner une réserve de cellules comme ça du système immunitaire pour leur donner un rempart, même alors que leur système immunitaire est gravement attaqué. Donc, c'est une des utilisations potentielles. On peut imaginer aussi ici utiliser ça comme véhicule pour certains médicaments beaucoup plus précis, donc de meilleures cibles pour des traitements contre le cancer, par exemple. Donc, c'est vraiment fantastique. On n'avait jamais réussi ça jusqu'à maintenant. Et ça, c'est franchement une bien belle découverte, là, ou un bien bel accomplissement.
Moi, ça me fascine à quel point on est en train de façon artificielle, de de recréer le corps humain.
Ah oui, vraiment.
Hein? Tout l'intérieur du corps humain est en train de le refaire en laboratoire.
Oui, exactement. Puis avec les imprimantes 3D, disons que ça nous donne un sacré coup de pouce.
Oui, tout à fait. Bon, Martin, il y a un nouveau catalyseur qui a été découvert qui va permettre de séparer l'eau et éventuellement de pouvoir produire de l'hydrogène.
Et de l'hydrogène de façon commercialisable. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de voitures électriques, bien entendu. On en parle de plus en plus. Ce qui est intéressant ici au Québec, lorsqu'on parle de voitures électriques, parce que notre électricité, elle est produite grâce au mouvement de l'eau.
Oui.
Donc, on a une source d'électricité qui est propre ici. C'est pas le cas partout.
Partout, non.
Donc, une voiture électrique en Californie, c'est un gros problème. Tu augmentes ton empreinte de carbone, là. Donc, parce que tu utilises des centrales au charbon, et donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir une façon de produire, de déplacer nos véhicules avec l'énergie qui est entièrement propre? Et ça, c'est très important, surtout dans le cas de l'hydrogène. Jusqu'à maintenant, on réussit à produire de l'hydrogène à fort coût quand même. Ça coûte cher produire de l'hydrogène pour déplacer des voitures. Et surtout, on produisait cet hydrogène-là à partir de composés chimiques comme du méthane ou du charbon. Donc, on s'entend que c'est pas tout à fait écologique.
C'est pas tout à fait green, là.
Non, vraiment pas. Tu sais, faut pas se fermer les yeux puis se mettre des œillères en se disant, ben oui, mais au moment où l'hydrogène brûle dans un moteur à hydrogène, ben ce qui en sort, c'est de l'eau, donc c'est très écologique. Oui, mais le mode de production de ton hydrogène,
c'est ce qu'il y a derrière,
pas écologique.
Ben oui, c'est sûr. C'est l'empreinte, en fait. C'est ce qu'on appelle l'empreinte.
Exactement, exactement. Alors ici, ben, des chercheurs ont réussi à créer un catalyseur, donc un élément chimique ou un composé chimique qui peut favoriser une réaction chimique. Dans ce cas-ci, laquelle? Eh bien, la séparation des molécules d'eau. Si on a tous entendu parler de la formule chimique de la molécule d'eau, H2O, ça veut dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène dans chaque molécule d'eau. Bien, ici, on a un composé chimique qui permet de briser cette molécule d'eau pour pouvoir produire l'hydrogène dont on a besoin pour alimenter, par exemple, des véhicules à hydrogène. L'intérêt ici, il est double. Premièrement, on peut faire ça plus vite et de façon moins dispendieuse. Donc ça, c'est très intéressant. Et deuxièmement, au lieu d'utiliser des molécules comme du méthane et du charbon, bien, on utilise de l'eau. Donc en partant, on est avec une source de production qui est plus verte, qui est plus écologique. Et parce qu'on a un système ici qui est plus rapide et qui est moins coûteux, bien, on se rapproche pas mal d'une commercialisation à grande échelle. Et c'est ça l'objectif ultime. Pas de prouver qu'on est capable de construire une voiture qui se déplace grâce à l'hydrogène, mais on est-tu capable de créer d'assez grandes réserves d'hydrogène pour imaginer une flotte de véhicules à hydrogène et pas juste genre, toi, tu as une auto un peu unique, mais dans le fond, les autres n'en auront pas parce qu'on ne peut pas supporter ça.
Et de la rendre accessible aussi.
Exactement. Donc ça, c'est très, très important. Et en plus, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que contrairement à d'autres formes d'énergie, l'hydrogène, là, l'hydrogène, comme on l'utilise dans ces moteurs-là, ben, on peut le comprimer pour le rendre liquide. C'est donc une forme d'énergie qui est plus facile à stocker que d'autres formes d'énergie. Donc, ça peut être très pratique de l'hydrogène comme source d'énergie. Là, ici, on est en train d'abattre le plus grand obstacle, c'est-à-dire produire ça vite, à moindre coût et de façon plus écologique.
Très intéressant.
Oui, vraiment.
Bon, puis là, Martin, tu vas en surprendre plus d'un avec ta dernière nouvelle.
Oui.
Je vais lire exactement ce que tu nous as écrit.
Oui,
puis là, ça demande une explication parce que même moi, je m'y retrouvais pas. Là. La solution pour vivre plus longtemps, deux points, atteindre l'âge de 105 ans.
Exactement.
Donc, la solution pour vivre plus longtemps, c'est de vivre jusqu'à 105 ans.
Exactement.
Quelque chose qui marche pas, là. Explique-moi ça.
Ça a l'air complètement pété. Mais oui, en fait, parce qu'on est des chercheurs italiens ont étudié le taux de mortalité selon les différentes tranches d'âge, essentiellement. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris 4000 individus nés tout près de l'an 1900 en Italie pour être capable de voir dans la possibilité de devenir un super centenaire dans ce cas-là. Par super centenaire, on parle de quelqu'un qui a plus de 110 ans, donc 110 ans et plus. Le record, en passant, est toujours détenu par la Française Jeanne Calment, qui était décédée... 122.
Ah, 120.
Imagine-toi.
Je pensais que c'était 118.
122. Ça, c'est le record absolu, présentement, une Française. Et Et donc, ils ont voulu voir c'est quoi le taux de mortalité à chaque tranche d'âge pour voir est-ce qu'il y a un plateau à un moment donné qui s'installe.
Par plateau, on entend qu'à partir de cet âge-là...
Le taux de mortalité ne change plus. Donc, on est carrément, donc que tu aies 105, 110, 115 ans, le taux de mortalité ou la probabilité
n'augmente
que...
N'augmente pas.
Non, c'est ça.
Pas plus.
Demeure le même. Exactement. Et ça, c'est franchement très intéressant. Si je vous mets un peu en contexte, plus on vieillit, plus les chances de mourir, donc de ne pas se rendre à l'année suivante, augmentent. Hein, on s'entend que c'est pas difficile à imaginer. T'as plus de chances de mourir quand t'as 60 que quand t'en avais 30.
Ben oui, c'est
ça.
Sûr.
Ça, je pense, c'est bien évident. Et là, ils sont mis à comparer... quels sont les pourcentages de chances de décéder dans l'année?
Donc, quand t'as 80, quand t'as 90.
Exactement. Okay. Puis, c'est quoi ton espérance de vie moyenne quand t'as atteint un certain âge? Alors là, ils ont commencé à... Bon, ils ont pris toutes sortes de tranches d'âge, mais c'est intéressant. Quand on se rapproche de 100 ans, à 90 ans, tu as 15 % des chances de décéder dans l'année et tu as une espérance de vie de 6 ans. Là, on parle évidemment d'une moyenne, okay. Bien entendu. Quand t'es rendu à 90... À 95 ans, le risque de décéder dans l'année augmente à 24 %. Donc, tu viens presque de doubler le risque de décéder dans l'année.
Ouais.
Et ton espérance de vie est tombée de 3 à 7 ans. Donc, quand tu atteins les âges vénérables, les chances de décéder dans l'année, ça augmente vite.
Moi, à 95 ans, là, si tu m'avais demandé le pourcentage de chances que je meure dans l'année qui vient, je t'aurais mis ça à 70. Là.
Mais... tu as déjà atteint un âge qui dépasse de beaucoup l'espérance de vie moyenne. Hein? C'est pour ça que là, on voit des pourcentages qui sont peut-être surprenants, comme tu le soulignes de façon très appropriée. Alors là, ils ont pris après ça 105 à 109. Donc, ceux qui sont juste avant de devenir des super centenaires, et là, ils ont, sans surprise, 50 % de chances de décéder dans l'année et une espérance de vie d'une année et demie. Mais 10 ans plus tard, c'est exactement les mêmes chiffres. Donc, tout d'un coup, il y a un plateau qui s'installe. Tu n'as pas plus de chances de décéder dans l'année.
Qui vient.
Ton espérance de vie demeure la même à partir d'un certain plateau.
Donc, mettons, on prend l'exemple de Jeanne Calment, là,
exact.
Qui est morte à 122 ans.
Ouais.
Ça veut dire que quand elle avait 108 ans, les chances qu'elle meure dans l'année étaient les mêmes qu'à 117.
Exactement. C'est exactement ça. Donc, tu atteins un plateau. Et pourquoi c'est intéressant, ça? Parce que ça veut dire que, contrairement à au consensus scientifique jusqu'à maintenant, peut-être qu'il n'y en a pas de date de péremption chez l'humain, puis peut-être que le point de non-retour ou le point final de l'espérance de vie, il est peut-être pas mal plus loin dans le temps qu'on pourrait l'imaginer. Parce que, règle générale, jusqu'à maintenant, on se disait, dépasser 120 ans, on ne voit pas comment on peut vraiment vivre au-delà de ce point-là. Mais là, il est peut-être plus loin dans le temps parce que le plateau, lui, il bouge plus après, après un certain âge. Donc, on peut imaginer une espérance de vie théorique, si on veut, plus loin dans le temps. Et l'intérêt, il est où? L'intérêt, c'est quand tu comprends ça, est-ce que tu es capable d'appliquer des observations que tu peux voir au niveau des super centenaires à des plus jeunes pour voir comment on est capable de moduler l'espérance de vie ou la longévité chez l'humain? C'est franchement très, très intéressant. Donc, oui, je le sais, c'était drôle comme titre. Donc, si vous atteignez 105 ans, vous êtes correct.
Je te laissais aller. J'ai oublié de regarder l'heure. On a dépassé notre temps façon exemplaire. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Martin.
Ça fait très plaisir.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Bye.